الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 19 من شهر صفر عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 28 من شرح كتاب التوحيد. Nous sommes le 19 novembre 2016 et nous entrons aujourd'hui, inshallah, dans le 28e cours de l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Nous sommes dans le chapitre باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Chapitre concernant le fait que l'exagération à l'égard des tombes des pieux transforme ces dernières en monuments adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Où nous avons lu le premier texte rapporté par l'imam Malik dans son recueil intitulé Al-Muwatta, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La taj'alu qabri wathanan yu'bad » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو الله fait que ma tombe ne soit pas un monument adoré. La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et on a étudié ce premier texte. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَلِبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. Ibn Jarir rapporte, Ibn Jarir c'est le grand imam al-Tabari rahimahullah ta'ala, qui a un tafsir du Coran, l'explication du Coran, wa huwa ahsan al-tafasir wa umdatul mufassirin. C'est le meilleur tafsir du Coran. C'est la source chez tous ceux qui, après, ont écrit un livre de tafsir. Ils ont tous pris de l'imam al-Tabari, de son tafsir, rahimahullah ta'ala. Et l'imam ibn Kathir, rahimahullah, qui a son tafsir, tafsir al-Qur'an al-Azim, innama lakhasa ma fi tafsir al-Tabari. Il a résumé ce que l'on retrouve plus en détail dans le livre de l'imam al-Tabari, rahimahullah. L'imam al-Tabari, dans son tafsir, rapporte, selon sa propre chaîne de rapporteurs, d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, un tabi'i, parmi les grands savants de la sunna, et très grands savants dans le tafsir. Au point où certains ont dit, si tu entends Mujahid donner un tafsir, n'en cherche plus. C'est-à-dire, tu as compris le verset. Car Mujahid a pris de Abdullah ibn Abbas, et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a bénéficié de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en sa faveur, pour qu'il puisse comprendre le Coran. Donc, Mujahid a dit, concernant le verset dont le sens rapproché est, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Donc c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui s'adresse à Quraysh et qui leur dit, eux qui sont les adorateurs de ces divinités qu'ils ont appelées Al-Lat, Uzza, informez-moi maintenant de vos divinités. Vous avez perdu à la bataille de Badr. Vous avez été réduit à l'échec, à l'avilissement. Où étaient vos divinités que vous adorez en dehors d'Allah? Pourquoi ne vous ont-elles pas défendu? Allah les blâme, subhanahu wa ta'ala. Dans le tafsir, de Tabari, on voit que Mujahid a dit Al-Lat était un homme, c'est le nom d'un homme qui broyait ce qu'on appelle As-Sawiq pour les pèlerins. As-Sawiq, c'est une sorte de farine. Al-Lat, dont on parle dans ce verset, c'est un homme qui était bon et généreux. Et il avait pour habitude de pétrir la farine et d'y ajouter une graisse afin que cela devienne comme un pain que les pèlerins se rendant à la Mecque, car le pèlerinage existait même avant le prophète, alayhi salatu wassalam, même si c'était une manière différente et il contenait du shirk, afin que ces pèlerins puissent manger. Il honorait donc les pèlerins qu'il accueillait et qu'il recevait. C'était donc quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux envers les gens. Puis lorsqu'il est mort, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont recueillis auprès de sa tombe et se sont mis à l'adorer en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est une preuve, une réponse parmi tant d'autres aux adeptes du soufisme qui disent « Vous, les wahhabiyas, vous parlez de ce que l'on fait et vous prenez pour preuve des versets interdisant l'adoration des arbres, des tombes, des versets qui blâment Quraysh, alors que Quraysh, comme on le sait, adorait des idoles. Nous, nous traitons avec des hommes pieux. Ces versets ne nous concernent donc pas. » Parmi les réponses, il y en a beaucoup, parmi ces réponses, celle-ci. Dans le Coran, Allah parle de Lat, et Lat était un homme qui offrait de la nourriture aux besogneux parmi les pèlerins. Quand il est mort, les gens l'aimaient tellement qu'ils ont exagéré à son égard au point de l'adorer près de sa tombe. C'est donc une preuve claire. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Le dernier texte qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi et d'autres a été jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah. Al hadith ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Si ce n'est qu'il contient des informations qui ont été confirmées par d'autres hadiths, d'autres récits qui sont authentiques. Premièrement, on y voit لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes. Deuxièmement, wal muttakhidin 'alayha al masajid wa suruj, ainsi que ceux qui prennent ces dernières, c'est-à-dire les tombes, comme lieu de prière, et les ornes de lampes, comme les gens qui mettent des bougies sur les tombes. Toutes ces choses sont interdites. Le hadith est faible. La première partie, les femmes qui visitent les tombes. Ça, c'est une question à divergence chez les gens de science. Certains disent qu'en aucun cas la femme a le droit de visiter la tombe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith qui est authentique, a fait la mention de celles qui visitent les tombes. La'anatullah ala zawaratil qubur, qu'Allah maudisse celles qui visitent les tombes. Ils ont dit, ce hadith est une preuve qui montre l'interdiction de visiter les tombes pour les femmes. Les savants ont dit que la sagesse, comme Cheikh Saleh al-Fawzan, ont dit que la sagesse derrière laquelle il y a cette interdiction, ou qui est derrière cette interdiction, pardon, c'est le fait que la femme est sensible, émotive. Et que très souvent, des femmes ont été rendre visite à des défunts proches qui étaient pour elles des êtres chers. Elles n'ont pas pu patienter. Elles ont peut-être prononcé des paroles qui transgressent les limites fixées par Allah. Elles ont manifesté un désaccord avec le destin d'Allah, avec la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pourquoi moi, pourquoi mon fils, pourquoi mon époux, pourquoi telle et telle chose. Et comme la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est venue pour arrêter le mal et fermer toute porte susceptible de conduire à un mal, le prophète alayhi salat wa salam leur a interdit de visiter les tombes, même si l'une d'entre elles pourrait dire « Je suis forte et je sais que je ne vais pas agir ainsi. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ferme une porte, on ne doit pas l'ouvrir. Même si on a une bonne intention. D'autres savants ont dit qu'il est permis aux femmes de visiter les tombes si elles le font de temps en temps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons « Kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur » « Je vous avais interdit de visiter les tombes »« Ala fazuruha » »« Dès à présent, visitez-les »« Fainaha tudhakirukum al-akhira » »« Car elle vous rappelle l'au-delà » Ces savants qui voient comme Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre « Ahkam al-Janaiz » « Les règles des funéraires » ou des funérailles » dit que le prophète s'adresse à tout le monde, hommes et femmes, alayhi salat wa salam, visitez-les. C'est-à-dire, vous avez le droit. Et il dit, rahimahullah, que le hadith Zawarat al-Qubur, qui mentionne celles qui visitent les tombes, le terme employé est Zawarat, et non Zairat. Et le terme arabe Zawarat est sur un sham que l'on appelle Sirat Mubalara, c'est-à-dire pour parler de celles qui visitent beaucoup, énormément les tombes, et que c'est ça qui est interdit. Donc, si elles les visitent de temps en temps, elles n'entrent pas dans cette menace. Si ce n'est que les autres savants qui voient l'interdiction ont dit que cette façon de parler a été employée par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran sans vouloir parler de la personne qui fait beaucoup cette chose, mais simplement pour parler de la personne qui fait cette chose tout simplement, comme quand il a dit wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Si on traduisait ça littéralement, on aurait dit et ton Seigneur n'est pas grandement injuste envers les serviteurs. Ça pourrait sous-entendre qu'il peut l'être de temps en temps, ce qui est faux. Ce qui est voulu, c'est ton Seigneur n'est pas injuste du tout envers les serviteurs. La forme employée en arabe est la même forme employée dans le hadith qui interdit les femmes de visiter les tombes. Donc, le résumé de tout cela, c'est que pour eux, il est interdit aux femmes de visiter les tombes. Quoi qu'il en soit, les savants disent « Al-khuruj min al-khilaf mustahab » « Sortir de la divergence est quelque chose de recommandé. » Tu fais ce qui est sûr et délaisse ce qui t'est douteux. Et la meilleure des choses à faire pour les femmes, c'est de ne pas visiter les tombes. Quoi qu'il en soit, « Wal-muttakhidina alayha al-masajid » Et là aussi maudit ceux qui y mettent, ceux qui y bâtissent des mosquées. On a vu l'explication de tout cela, et c'est en concordance avec des récits authentiques. Wasuruj et les bougies. Et ça fait aussi partie de l'exagération à l'égard des pieux et de leurs tombes. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre qui porte sur l'exagération à l'égard des tombes des pieux, et que cette exagération amène à rendre ces tombes des idoles que l'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit la'an Allah, comme on le voit ici, on la traduit par qu'Allah maudisse, mais al-la'na, que l'on traduit par la malédiction, c'est at-tard wal-ib'ad min rahmatillah. La'ana Allah fulanan ay ab'adahu Allah, taradahu Allah min rahmatih. Quand il est dit dans un récit qu'Allah maudisse un tel, c'est-à-dire qu'Allah l'éloigne, l'écarte de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il commet un péché tel qu'il se voit refuser la miséricorde d'Allah dont il a tant besoin pour éviter le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Tayyib. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, voit l'interdiction de visiter les tombes comme il l'a détaillé ici. Le Cheikh a dit, وَفِي هَذِهِ النُّصُوصِ فَوَائِدُ عَظِيمًا. Il y a dans ces textes d'énormes leçons bénéfiques à retirer. Parmi lesquelles, الْفَائِدَةُ الْأُولَى, le titre du chapitre. Que l'exagération à l'égard des tombes rend ces tombes des monuments adorés en dehors d'Allah, comme on l'a vu en détail. Deuxièmement, أن الله سبحانه صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاءه. Qu'Allah سبحانه وتعالى a exaucé la demande du prophète صلى الله عليه وسلم et a préservé sa tombe. Quelle est sa demande? اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Oh Allah, fais que ma tombe ne soit pas un monument adoré. Est-ce qu'aujourd'hui sa tombe est un monument adoré? La réponse est non. Et même si des gens vont à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et essaient de s'approcher de sa tombe pour y faire des actes de polythéisme, de shirk, en réalité, ils ne sont que loin de sa tombe. Ils ne sont pas proches comme on le voit dans d'autres tombes. Et c'est de ça que parle le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas approcher, accéder directement à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, fihi anna al-ukuf fihi anna al-ukuf ala qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah kama hasala li qabri Lat. Fa innahu sara wathanan bi sabab al-ukuf 'indahu ba'da mawtih. Le fait que se recueillir près d'une tombe d'un pieux aussi fait que cette tombe devient un monument adoré, une idole adorée en dehors d'Allah. Ce fut le cas de Lat, cet homme qui offrait des repas aux arrivants parmi les pèlerins. Lorsqu'il est mort, les gens de son peuple se sont recueillis près de sa tombe et elle est devenue une idole adorée en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة الصالحين. La réponse à ceux qui prétendent que construire sur les tombes des pieux est un indice, une preuve d'amour pour ces pieux. Alors que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'interdit. Donc ça c'est une preuve que cette simple prétention ne peut en aucun cas justifier un tel acte, car cet acte relève d'un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, fil hadith dalil ala tahrim ziyarati an-nisa' liqubur. Il y a dans ce récit la preuve de l'interdiction pour les femmes de visiter les tombes, comme nous l'avons vu. Et enfin, sixièmement, fil hadith dalilun على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار بأي وسيلة. On voit la preuve qu'il est interdit d'illuminer les tombes. Cette interdiction est réelle, d'illuminer les tombes comme certains le font par des bougies. Le cheikh dit أو كان بالكهرباء, ou que ce soit avec l'électricité, أو غير ذلك. كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة. Toutes les façons d'illuminer une tombe à travers les différentes époques sont interdites. والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانا. On ne doit pas illuminer les tombes, car illuminer les tombes est un moyen qui conduit à rendre ces tombes idoles, adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chapitre suivant. L'auteur, rahimahullah, dit Bab ma jaa fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab at-tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk. Chapitre suivant. La protection du tawhid par le prophète élu sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour barrer toutes les voies menant aux polythéistes. Ce chapitre a pour but de montrer la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et le fait qu'il était un conseiller qui a tant fourni d'efforts et qui n'a rien laissé. Il n'a laissé aucune voie susceptible de conduire au shirk, de conduire à la bid'a, à l'innovation, de conduire à la désobéissance d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa subhanahu wa ta'ala sans fermer cette porte et sans barrer cette route alayhi salatu wa salam. Comme lui-même l'a dit alayhi salatu wa salam, bu'ithtu bil hanifiyyati samha, j'ai été envoyé avec la religion appelée al-hanifiyyatu as-samha. Al-hanifiyya, c'est la religion de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. C'est avec cette religion qu'il a été envoyé. Al-hanifiyya hiya dinu ibadatillah wahdahu la sharika lah bu'itha bihi alayhi salatu wa salam. C'est avec cette religion qu'il a été envoyé. As-samha, لأن شريعة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة سمحة فيها اليسر فيها الهداية فيها الخير فيها الإصلاح فيها التصحيح فيها التعليم سمحة سمحة c'est-à-dire que la voie du prophète صلى الله عليه وسلم est une voie simplifiée, une voie dans laquelle il y a l'enseignement, la correction des erreurs, la bonne orientation vers la croyance authentique. Tout ceci sans contrainte, sans lourdeur, sans difficulté qui fait que la personne ne peut appliquer les ordres. Non. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la simple, la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et ce verset est mal compris par beaucoup de gens qui, lorsqu'ils commettent des interdits, puis qu'ils sont réprimandés, ils prennent pour preuve ce verset et disent « Allah veut pour nous la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. On est dans une époque où c'est difficile, Allah veut pour nous la facilité, on prend la facilité. » De quelle facilité est-ce qu'Allah parle dans le Coran? Il parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de ses ordres. C'est-à-dire qu'en réalité, Allah dit dans ce verset que tout ce qu'il a légiféré est facile. Ce verset est une preuve que tous les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que tous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des ordres qui ont été simplifiés par Allah. Puisque celui qui veut pour nous la facilité est le même qui nous a donné ses ordres. Est-ce qu'il se contredit? Non. Donc, cette preuve, ce hadith, ce verset, est une preuve contre les gens qui désobéissent à Allah, puis qui disent « Allah veut pour nous la facilité ». Oui, Allah veut pour nous la facilité, laquelle? Celle que toi tu comprends? Non. Celle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a compris. Quelle est-elle? Sa sunna et la guidée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit tout ce qui peut conduire au shirk, même si la personne dit « Ana niyati sadiqa, wa ana la aqsid al-shirk, wa la aqsid al-bid'a, wa la aqsid ma'asiyat Allah. » Même si la personne dit « Mon intention est saine, je n'ai en aucun cas l'intention d'associer à Allah. Je n'ai en aucun cas l'intention d'innover. Je n'ai en aucun cas l'intention de désobéir. » même si ton intention est la meilleure, ce qui est interdit chez Allah est interdit. Ce qui est licite chez Allah est licite. Et ce n'est pas ton intention qui rend l'interdit licite et qui change les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de preuves qui l'appuient dans le Coran et la Sunna. Et nous en avons vu quelques-unes parmi lesquelles le peuple de Nuh alayhi salam, n'est-ce pas qu'ils avaient une bonne intention lorsqu'ils ont mis les statues à l'effigie des cinq personnes pieuses de leur époque qu'ils aimaient tellement? Ils avaient une mauvaise intention selon l'un d'entre vous? Non, ils avaient tous une bonne intention. Et à quoi cette action a conduit? À l'apparition du shirk sur terre. Alors qu'ils avaient une bonne intention. La bonne intention en aucun cas ne permet ce qu'Allah a fermé comme porte. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le lien entre ce chapitre et le livre, ou en d'autres termes, pourquoi l'auteur a-t-il mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? La réponse est la suivante. Dans ce livre, l'auteur, rahimahullah, a mentionné les différentes catégories de Tawhid, des différentes formes de shirk, les causes qui y mènent. Et dans ce chapitre, il va montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement combattu tout cela. Il convenait donc de citer ce chapitre dans cet écrit Kitab al-Tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre après les chapitres l'ayant précédé? La réponse est la suivante. Car dans tous les chapitres précédents, on voit des interdictions de shirk, on voit des interdictions de moyens menant au shirk, à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'auteur de manière générale ici a cité tout ce qui est détaillé dans Kitab al-Tawhid. Quel est ce sujet de manière générale? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes qui mènent au shirk. Mais pour appuyer sur la grandeur de ce sujet, car en réalité tout Kitab al-Tawhid est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les portes au shirk, pour appuyer sur la grandeur de ce sujet, il lui a consacré un chapitre. En réalité, il en a consacré deux. L'autre viendra plus loin. Incha'Allah ta'ala, voici les liens entre Kitab al-Tawhid et ce chapitre. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le premier texte qui est un verset et dit « وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » Dans Sourate al-Tawba, le sens rapproché du verset. Certes, un messager pris parmi vous ou issu de vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, que vous portez, qui est plein de compassion à votre égard et qui est envers les croyants compatissant et miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, a dit, ce verset nous présente qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je le fais pour ceux qui s'endorment, qu'ils se réveillent. Allah tabaraka wa ta'ala nous présente dans ce verset le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous dit de lui qu'il est un messager issu. Donc au début, Allah s'adresse à Quraysh et il dit qu'il est un messager issu d'eux, c'est-à-dire de leur origine. Il est arabe comme eux. Il va s'exprimer avec eux, il va s'adresser à eux dans leur langue, la langue qu'ils comprennent. Et c'est dans leur langage, dans leur langue, qu'il va leur interdire le shirk, l'innovation, le mal, les péchés, l'égarement. C'est dans leur langue qu'il va les inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam était un homme pieux, bon, le meilleur des hommes. Aucune personne ne lui est égale. Il nous a appelé toute sa vie à la ilaha illallah. Depuis le premier jour où Allah fit de lui un prophète, lorsqu'il s'est tenu debout sur le mont Safa et les a invités au tawhid, puis son oncle Abu Lahab s'est opposé à lui, l'a maudit ou l'a insulté, l'a dénigré. Allah l'a défendu avec des versets du Coran. Puis il a commencé à prêcher l'islam, et à chaque fois qu'il voyait une forme de shirk, la moindre porte susceptible de conduire au shirk, au mal, il était là pour la fermer, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voyait les gens de sa communauté qui commettaient des erreurs, il était là pour les corriger, sallallahu alayhi wa sallam. Il était quelqu'un de doux, plein de soucis pour les soucis des croyants. Les soucis des croyants étaient les siens, alayhi as-salatu wa salam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la récompense qui lui revient de droit, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce premier verset, nous voyons ces informations auxquelles pèsent lourd les difficultés que vous portez. Le prophète alayhi salatu wa salam subit les difficultés que les gens de sa communauté subissent, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Salih al-Fawzan a dit: فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشيخ لها في هذا الباب. Le cheikh a cité ce verset dans ce chapitre pour la raison suivante: أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلسانهم ونفهم لغته وأنه يشق عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit par ses qualités sublimes citées dans ce verset, il est arabe, il s'adresse à sa communauté par une langue qui leur est comprise. Les difficultés qui pèsent lourdes à sa communauté lui pèsent lourd aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Il est doux, compatissant vers les croyants. Est-il possible qu'une personne décrite par de tels attributs délaisse le conseil de sa communauté et ne la corrige pas, ne lui enseigne pas le shirk, ne lui enseigne pas le tawhid, ne lui enseigne pas le tawhid qui conduit au paradis et le shirk qui conduit à l'enfer? La réponse est non, et bien sûr que non. Et le cheikh Salih al-Fawzan a dit qu'il y a des gens à cette époque qui disent: la tadhkuru shirk, la tadhkuru al-aqaid, ne parlez pas du shirk, ne parlez pas de la croyance. Yakfi tasammi bil islam, il est suffisant de dire que nous sommes musulmans. Pourquoi? Ils disent: li anna hadha yunaffiru an-nas, car à chaque fois parler de tawhid, parler de shirk, parler de sunnah, parler de bid'ah, fait fuir les gens, divise les gens. Utruku kullan ala aqidati, laissez chaque personne avec sa croyance. Da'una najtami' wa la tufarriquna, hadha qawluhum, qawlun batil. Ils disent: laissez les gens sur leur croyance, arrêtons un peu de se diviser. Les autres communautés avancent et nous, nous sommes là à nous chamailler pour des choses qui n'ont pas la moindre valeur. Wal'iyadhu billah. Réunissons-nous et ne soyons pas divisés. Al-Sheikh al-Fawzan dit: Ya subhanallah, natruku shirk, wa la natakallamu fi amri tawhid, min ajli an najma an-nas, pour réunir les gens, on délaisse l'appel au tawhid, on ne parle plus du shirk. وهذا الكلام باطل من وجوه. Cette parole est caduque, elle est vaine, pour plusieurs raisons parmi lesquelles. اولا لا يمكن اجتماع الناس الا على العقيده الصحيحه. Il n'est pas possible, il est impossible d'unir les gens sauf s'ils ont la bonne croyance. Sinon, ils ne sont pas unis. Et même si tu les vois unis en apparence, en réalité, ils sont les gens les plus désunis. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Hashr, l'Exode, il dit subhanahu wa ta'ala, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont désunis. Il en est ainsi car ils sont un peuple qui ne raisonne pas. Allah Azza wa Jalla a montré تحسبهم جميعا أي في الظاهر لأنك تراهم مجتمعين فيما يبدو ويظهر لك. Tu les penses unis parce que quand tu les regardes, tu les vois tous ensemble. Ils s'entraident, ils sont ensemble. Donc pour toi, ils sont unis. Mais Allah Azza wa Jalla dit وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Et leurs cœurs sont désunis. Parce qu'ils sont un peuple de gens qui ne raisonnent pas. Et la seule chose qui unit les gens, c'est le haq, le tawhid, la sunna. Sinon, les gens sont désunis. Et c'est pour ça que les sectes disent arrêtez de parler de tawhid. Arrêtez de parler de aqidah. Arrêtez de parler de sunna. Vous nous désunissez avec vos paroles. C'est normal qu'on vous désunit avec nos paroles. Parce que nos paroles vous invitent à arrêter de faire ce que vous faites, qui est interdit par Allah, comme innovation, comme shirk. C'est normal que après vous allez être désunis. Parce qu'en réalité, vous n'étiez pas unis sur l'adoration d'Allah. Vous étiez unis sur des intérêts mondains, sur des choses qui vous amènent l'argent ou sur d'autres choses qui ne sont pas des intérêts religieux prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à son peuple Quraysh et les a invités à Allah et les a appelés au tawhid, ils sont partis se plaindre auprès des notables et leur ont dit « Innahu saffaha alihatana wa farraqa jam'ana » Ils ont dit en se plaignant de lui, il a insulté nos idoles et a divisé notre union, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un est capable de dire que le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé pour diviser les gens? Non, et bien sûr que non, il n'a été envoyé que pour unir les gens. Mais il a été envoyé pour diviser le vrai du faux. Et c'est de ça que l'on parle. Cette division, elle est bonne et on doit la faire. On doit séparer le vrai du faux. Si c'est de ça que vous parlez, alors nous sommes les plus grands semeurs de division de la terre et nous en sommes fiers. Et on remercie Allah Azza wa Jalla pour cette division. Car on ne veut pas que le vrai se mêle au faux et que le faux paraisse vrai pour les gens. On ne veut pas que l'innovation semble sunna chez les gens. On ne veut pas que le mal paraissent bien chez les gens. On divise le bien du mal, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que parmi les noms du Coran, Al-Furqan, le discernement, parce que le Coran a séparé, لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a été surnommé Al-Faruq. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? La notion de la séparation, de la division, parce que Omar radiallahu anhu a séparé le vrai du faux. Si c'est de ça que vous parlez, Allah nous a ordonné de le faire subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voulez vraiment l'union que vous recherchez tant, alors arrêtez les innovations, arrêtez le polythéisme, que chacun se remette en question et qu'il se dise: ma méthodologie, cette voie que je suis, est-elle une voie agréée par Allah Azza wa Jal, enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles en sont les preuves? Si oui, alors continue. Sinon, pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu dis mes parents m'ont dit, mon village m'a appris, mes habitudes font que je dois continuer? Pourquoi tu dis si j'arrête de suivre cette voie, je n'aurai plus de risque, je n'aurai plus de subsistance? Pourquoi tu dis si j'arrête de suivre cette voie, les gens vont se détourner de moi, les gens ne vont plus m'aimer? Pourquoi tout cela? Pourquoi ne pas dire si j'arrête de suivre cette voie parce que j'ai su avec les preuves qu'elle est fausse, Allah va m'aimer, Allah va m'aider, Allah va me bénir, il va donc m'accorder sa subsistance, et même si tous les gens de la terre se détournent de moi avec l'agrément d'Allah, alors je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man iltamasa ridha Allah fi sakhatin nas, celui qui recherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens, c'est-à-dire il fait des choses qu'Allah aime mais que les gens ne veulent pas, n'aiment pas, et qui vont repousser les gens de lui et les écarter de lui, mais il fait cela à la recherche de la satisfaction d'Allah. Il dit radiyallahu an, Allah l'agré wa arda anhu nas, et les gens, Allah va faire en sorte aussi qu'il l'agré. Viendra un jour où les gens diront tu as raison. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il appelle Allah tabaraka wa ta'ala et il fait face à un peuple qui s'oppose à lui, qui tue ses compagnons, qui leur font subir des nuisances les unes après les autres. Et à la fin, celui qui étudie la sira, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à la fin, ils se sont dit, il a raison. Et la plupart de ses ennemis ont embrassé l'islam, au point où certains parmi les compagnons lui disaient, ya Rasulallah, tu étais la personne que je détestais le plus sur la terre. Et maintenant, tu es la personne que j'aime le plus sur la terre. Et les exemples dans la sira sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc appelé à la bonne croyance. Deuxième point cité par le Cheikh Al-Fawzan pour répondre à la parole de ceux qui disent appeler au tawhid divise la communauté. Mal fa'idatu min al-ijtima'i 'ala ghayri 'aqida hadha ma la yu'addi ilayh la yu'addi ila natijatin abada. Quel est l'intérêt de s'unir si chacun reste sur sa croyance? Le soufi adorateur de tombe garde sa croyance. Le shi'i adorateur de l'Hassan et l'Hussein qui rend mécréant Abu Bakr, Omar, Uthman garde sa croyance. Le ikhwani qui est dans sa politique et qui distrait les gens du livre d'Allah et du Coran et de la Sunna garde sa croyance et qui dit qu'on peut tous rester ensemble sans problème. Si vous voulez insulter les compagnons, ne le faites pas devant nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Wal'iyadu billah. Le khariji, qui sème le désordre sur la terre d'Allah, qui rend mécréants les musulmans à tort, qui provoque toutes ces révoltes, qui font couler le sang et qui n'amènent aucun bien, si ce n'est la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le ash'ari, qui dément des noms, des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui dit qu'Allah n'a pas de visage, qu'Allah n'a pas de main, qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux. On reste tous ensemble comme cela, alors que personne n'est d'accord. Moi j'aime Abu Bakr, toi tu dis qu'il est mécréant, et je reste avec toi. Wallah, et jamais de la vie. Moi je dis qu'on doit obéir aux détenteurs de l'autorité, et toi tu dis qu'on doit faire couler le sang, et on reste ensemble. Wallah, et jamais de la vie. Moi je dis qu'on doit appeler à Allah, que l'on doit adorer que lui, et toi tu dis que l'on peut invoquer Tidjani et Bamba dans leur tombe. Wallah, et jamais, on ne reste ensemble. Cette division-là, c'est de ça qu'ils parlent en réalité, quand ils disent arrêtez de nous diviser. Non, c'est vous qui vous êtes divisés. Remontons à l'islam originel. Allons voir l'islam des compagnons. Est-ce qu'ils se révoltaient contre les tenteurs de l'autorité? Non. Est-ce qu'ils démentaient les attributs d'Allah? Non. Est-ce qu'ils adoraient les tombes? Non. Est-ce qu'ils taxaient Abu Bakr et Omar de mécréants? Non. Qui est-ce qui a divisé la communauté alors? Ceux qui ont amené ces choses-là. Et ceux qui viennent après pour réformer cet islam altéré et inviter les gens à l'islam originel, celui des compagnons, ces gens-là divisent. Seul quelqu'un qui est mal intentionné ou qui est trompé, qui est ignorant, trompé, peut dire une telle parole. Et l'ambiguïté a disparu. Walillahilham. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Invoquez les bénédictions divines pour moi, c'est-à-dire priez sur moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. Ce hadith est immense dans les sens qu'il contient. Première phrase: La taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a dit: cette première phrase contient deux enseignements. Le premier, il est interdit d'enterrer quelqu'un dans sa maison. La yajuzu dafnul mayyiti fi baytihi. Il est interdit d'enterrer quelqu'un dans sa maison. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Donc il n'y a pas plus clair. Quelqu'un dira: n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison ainsi qu'Abu Bakr et Omar? La réponse est si, mais c'est une particularité. C'est quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr et Omar, qui sont ses deux compagnons vivants et morts. C'est pour cela qu'après eux, on n'a plus vu de compagnons enterrés chez ou dans une maison. Donc c'est une spécificité. La preuve que c'est une spécificité, ce que je viens de dire, après eux, plus aucun compagnon n'a été enterré dans une maison. Donc il est interdit d'enterrer une personne chez elle. Deuxièmement, fihi anna al-qubura laysat makanan lil-ibada. Il y a la preuve dans cette phrase que les tombes ne sont pas un lieu adéquat à l'adoration. On ne doit pas aller dans les tombes pour lire le Coran, pour prier de raka'a, aller dans les tombes pour faire du dhikr et toutes ces choses-là. Ça, c'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Pourquoi? Dans le sens où si la personne chez elle ne lit pas le Coran, n'évoque pas Allah, ne fait pas d'adoration, sa maison ressemble à une tombe. Pourquoi ressemble à une tombe? Parce que dans la tombe, on ne doit pas faire ces choses-là. Donc c'est une preuve qu'on ne va pas dans la tombe comme les gens le font pour réciter la Fatiha, pour réciter telle et telle surah du Coran, ou pour évoquer Allah, pour y faire des adorations. Tout ceci est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. Et ne faites pas de ma tombe ce que l'on appelle ici عيد. عيد اسم لما يعود. Les savants disent ce terme arabe appelé عيد اسم لشيء يعود ويتكرر. C'est le nom que l'on donne à quelque chose qui est répétitif et qui revient. C'est pour cette raison que les deux fêtes islamiques, celle de la fin du jeûne et celle du sacrifice du mouton, sont appelées Eid, car ce sont des fêtes répétitives. Ce sont des fêtes qui reviennent chaque année. Et chaque chose qui revient, en arabe, on peut l'appeler Eid, car c'est quelque chose qui revient. Pour cette raison, le vendredi a été appelé Eid al-Usbu', le Eid de la semaine, parce que c'est un jour qui revient à chaque fois, chaque semaine. On peut aussi employer ce terme, comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, pour une époque ou pour des endroits. Pour des endroits comme le mont Arafat, par exemple. Car le mont Arafat est un endroit vers lequel se rendent les pèlerins une fois par an. C'est donc quelque chose qui revient tout le temps. Eidun makani, c'est un Eid géographique. C'est un lieu de retour géographique. Et il y a Al-Eid Al-Zamani. Il y a le lieu de retour temporel. C'est-à-dire, c'est un temps qui revient tout le temps. Comme le mois de Ramadan, par exemple, c'est un temps qui revient tout le temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit aux compagnons, « Wa la taj'alu qabri 'ida » et ne faites pas de ma tombe un lieu de retour. C'est-à-dire, un lieu de visite fréquente et répétitive. Ne venez pas visiter à chaque fois ma tombe, comme beaucoup de gens le font. Quand ils sont à Médine, qu'est-ce qu'ils font? Chaque jour, ils vont visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yazurun al-qabra yawmiyan. Hada la yajuz. Ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, Cheikh Salih al-Fawzan, ont dit لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ. Car c'est un moyen qui conduit au shirk. Et comme dans ce chapitre, on traite de ces portes qui ont été fermées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent conduire au shirk, ce hadith a été cité dans ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَصَلُّوا عَلَيَّا et priez sur moi. Prononcez les prières et les salutations sur lui comme sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, faites-le à chaque endroit. Ne pensez pas qu'il faut absolument être près de ma tombe pour le faire et qu'il y a dans cela une particularité, une spécificité, un mérite supplémentaire. Non. Sallu alayya, tout simplement. Priez sur moi. Puis il dit, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Pourquoi? Il dit, car vos invocations, vos prières me parviennent où que vous soyez. Et ça, c'est la réponse aux gens qui, malheureusement, il y a des gens, lorsqu'ils partent pour le pèlerinage, Allah les gratifie de ce magnifique voyage, la visite de Médine, la visite de la Mecque. Les gens du village viennent le voir et lui disent, par pitié, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je le salue. Sallim ala rasoul alayhi salatu wa sallam. Wadhkur ismi inda. Et mentionne bien mon nom. Dis bien que, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Sadiq. Dis bien que Sadiq le salue de ma part. Puis une deuxième personne, une troisième personne. Et ces gens pensent que c'est important. Au point où la personne se dit, Allahu Akbar, il y a trop de noms. Elle prend une feuille, un stylo et elle note les noms des voisins, des enfants, de la famille. Puis quand elle arrive devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sort le papier, elle le déplie et elle dit, un tel te salue, ya Rasulallah, un tel te salue, le voisin et sa fille, et ils font des invocations pour toi, un tel te salue, un tel te salue, un tel te salue. Et ils gênent les pèlerins qui rendent visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pensez pas que c'est quelque chose d'imaginaire ce que je dis. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, on nous a déjà demandé, oh Cheikh, j'ai perdu la liste de noms des gens qui m'ont demandé de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je faire? Il croit qu'il est dans un péché, qu'il a une responsabilité, comment vais-je faire? Tous ces gens qui m'ont demandé, je ne pourrais pas les citer auprès de sa tombe. Ça c'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, wa sallu alayya, priez sur moi, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Car vos prières me parviennent où que vous soyez. Qu'est-ce que cela veut dire, vos prières me parviennent où que vous soyez? La réponse est dans un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballiruni an ummati as-salah. » Allah a des anges chargés de parcourir la terre qui me font parvenir les prières de ma communauté. Où que tu sois, quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, des anges amènent cette prière et la font parvenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois à Médine ou en Turquie, que tu sois au Pérou ou au Brésil, si tu dis sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as plus besoin de dire à quelqu'un qui va à Médine, va le saluer. Allons plus loin encore. Imagine-toi quelqu'un qui vit dans un village, dans un endroit où personne ne va avoir la capacité, la possibilité de se rendre à Médine. Vas-tu dire de ces gens qu'ils sont privés de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. C'est impossible de croire une telle chose. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé ces mots à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala a dit concernant les lieux de retour interdits, al-a'yad al-makaniya al-muharrama, al-ijtima'u 'inda al-qubur, les rassemblements près des tombes, sawa'un qabr al-rasul sallallahu alayhi wa sallam ou qabr ghayri, que ce soit la tombe du messager alayhi salatu wa sallam ou la tombe d'autres personnes, wa safaru ila al-qubur, et le voyage dans le but de visiter les tombes, ça c'est interdit dans l'islam. Même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne voyage pas pour aller visiter une tombe. Beaucoup de gens voyagent et disent je dois absolument aller voir la tombe de ma fille, je dois absolument aller voir la tombe de mon père, de mon grand-père, ça c'est interdit. Si ton voyage, le but de ton voyage c'est la visite de la tombe, ce voyage il est haram, il est interdit. Par contre, si tu vas visiter ta famille, ton village, si tu pars voyager, parcourir la terre comme tout le monde, et quand tu es sur place, tu profites pour visiter, il n'y a pas de mal à cela. Mais voyager pour visiter une tombe, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taj'alu qabri 'ida. Ne faites pas de ma tombe un lieu de retour. والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها. Également, il est interdit de revenir tout le temps dans les tombes pour y invoquer Allah, pour y prier. Et la preuve, c'est le hadith que nous avons vu. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit وعن علي بن ابن نعم. J'avais oublié de dire quelque chose. Regardez la compréhension égarée de certaines personnes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا » et ne faites pas de ma tombe un عيد, ils ont dit dans l'année il y a deux عيد, عيد الفطر, la fête de la rupture du jeûne, et عيد الأضحى, la fête du sacrifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu ici qu'on ne fasse pas de sa tombe comme le Eid, qui est très peu, qui est que deux fois dans l'année. C'est-à-dire visiter ma tombe beaucoup. J'avais compris ? La taj'alou, ils ont dit, ma'ana, la taj'alou qabri Eida, l'enna l'Eid qalil, Eidan, antum akthiru min ziyarati qabri. Hada fahmun batil. C'est une compréhension complètement erronée et fausse, en désaccord avec les principes même de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui entend une telle explication, on lui dit, le messager a dit, il va jurer par Allah que le prophète n'a pas dit ça, parce qu'il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il sait que c'est impossible. Il sait que ce n'est pas possible. Wa an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu annahu رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ. Regardez la clarté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ali ibn al-Husayn, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a épousé Fatima. Ils ont eu deux enfants, Al-Hassan, Al-Husayn. Al-Husayn a eu un garçon, il l'a appelé Ali comme qui? Comme son père. Et ça, c'est une coutume qui est faite jusqu'à nos jours. Il n'y a aucun mal dans cela. Ali ibn al-Hussein a vu un homme qui s'est introduit dans une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme s'est rendu auprès de la tombe et il a vu une brèche, une petite ouverture. Il s'est infiltré dedans pour être le plus proche possible de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Ali lui a dit ? De la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y invoquer Allah, il le lui interdit alors en lui disant: veux-tu que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père d'après mon grand-père? La chaîne de transmission, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali qui a entendu de l'Hussein, qui a entendu de Ali ibn Abi Talib, qui lui-même a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les gens les plus proches de lui qui ont ces enseignements. Qu'est-ce que les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent de celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit ce que le prophète a dit. Qu'est-ce que le prophète a dit alayhi salatu wa sallam? Ne prenez pas ma tombe comme lieu de pèlerinage et ne faites pas de vos demeures des tombes et invoquez les bénédictions divines pour moi, c'est-à-dire priez sur moi, car vos salutations me parviennent où que vous soyez. Par Allah, y a-t-il plus clair que ça comme parole? Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Et aujourd'hui, on te dit que si tu vas dans la tombe d'un tel, tu n'as plus besoin d'aller au Hajj, qui est un pilier de l'islam. Tu es exempt. En gros, ça veut dire que tu as fait mieux que le Hajj. Quelque chose qui t'exempte du Hajj, c'est quelque chose de meilleur. Meilleur qu'un pilier de l'islam. Maintenant, un interdit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est devenu pour les gens meilleur qu'un pilier de l'islam. Si ce n'est pas la mauvaise compréhension, si ce n'est pas ça la réalité de l'égarement, alors la mauvaise compréhension n'existe pas et l'égarement n'existe pas. Et dans ce récit, on voit donc ce que nous dit la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعد مفسرا لحديث أبي هريرة. Le hadith d'avant rapporté par Abu Huraira est détaillé par ce hadith là, car il est équivalent si ce n'est que dans le dernier on voit aussi que Ali ibn al-Hussein a blâmé la personne qui a fait. Donc on apprend que c'est pas bon, qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais d'agir ainsi et qu'il faut orienter les gens, comme l'a fait Ali ibn al-Hussein radiyallahu rahimahullahu ta'ala at-tabi'i. Le Cheikh Salih al-Fawzan conclut en donnant les conclusions de ces récits. ما يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين. Ce qui est à conclure de ce verset et des deux hadiths. Premièrement, la grâce d'Allah, امتنان الله على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Envers cette communauté, en leur envoyant le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Allah les a comblés, subhanahu wa ta'ala, il nous a comblés par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, dans ce verset, il y a la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, nous l'avons vu. Troisièmement, la preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a barré les routes menant au shirk et a fermé toutes les portes. Il n'en a laissé aucune. Et on va le voir ça dans le deuxième chapitre sur ce sujet qui vient plus loin, Inch'Allah, dans Kitab al-Tawhid et dans les autres chapitres aussi de manière générale. Quatrièmement, le hadith de Abu Huraira est une preuve que l'on doit remplir nos maisons de rappel d'Allah et d'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Pourquoi? Parce que dans les tombes, il n'y a pas de dhikr, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de prière. Et nous, on ne doit pas faire cette chose dans nos maisons. Et parmi les mots, comme l'a cité le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, qui sont entrés dans nos maisons et qui en ont fait pour certaines des tombes, il y a la télé. Car lorsque la télé entre dans la maison, lorsque ce malheur entre dans la maison, combien de gens ont dit « Je vais regarder les programmes religieux, je vais regarder la chaîne Qanatul Qur'an al-Karim, la chaîne du Qur'an. » Il commence comme cela, il regarde le Qur'an. Ensuite, il a une télécommande dans la main, il n'y a que des boutons, tu touches et ça change la chaîne. C'est facile. Il appuie, il change, il regarde, il voit autre chose. Il voit autre chose. Ses yeux commencent à s'habituer à voir ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Il commence à s'habituer à voir des femmes dévêtues. Plus le temps passe, moins c'est grave, moins c'est important. Il commence à s'habituer à entendre ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, la musique et autres. Il commence à s'habituer à voir des choses qui sont du kufr, du shirk, dans des films par exemple, où l'on se moque de la puissance d'Allah, de la rahma d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et puis, tout cela ne devient plus important dans le cœur de la personne. Et la personne commence, puis sa foi baisse, elle ne s'en rend pas compte. Sa foi baisse, sa religiosité baisse, sa crainte d'Allah baisse, sa pudeur disparaît. Et à la fin, elle s'est fait voler sa foi par le shaitan. Et en plus de ça, elle paye une grande facture d'électricité. Quelle escroquerie alors! Quelle arnaque! Et au point où on trouve des personnes qui n'arrivent plus à dormir sans la télé. Allahu Akbar! Comment shaitan a eu ces gens par Allah? Tu n'arrives pas à t'endormir sans la télé? Et il te dit, je veux me reposer, je reviens du travail, je cherche la quiétude. Mais la quiétude, tu la trouves dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une personne qui ne trouve pas la quiétude, une personne qui ne trouve pas la quiétude dans le rappel d'Allah, son cœur est dans un état catastrophique et gravissime. Et ce qui est d'autant plus malheureux, ça c'est ce qui nous concerne nous, les gens de la sunna, c'est de voir que des gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont la bonne croyance ont une télé et passent leur temps à regarder la télé. Ça c'est une nasiha de ton petit frère, toi qui écoutes. Débarrasse-toi de ça, ya akhi. Débarrasse-toi de ça, ya urti. Et fermons les portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les portes au mal. Si ça ce n'est pas une, deux, trois, voire 10 portes au mal, quelles sont les portes au mal alors? Là je vous résume un peu car Cheikh Saleh Al-Fawzan en parle. Il s'est étalé sur la télé. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Parmi les points à retirer de ce hadith, فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها. Et on voit dans ce hadith que les tombes ne sont pas des lieux de prière. On ne doit pas y prier. D'autres points ont été cités par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Quant à nous, on va se contenter de ce que nous avons entendu. Inch'Allah Ta'ala. Et on s'arrête ici et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre. Et le chapitre suivant aura aussi une très grande importance. Wallahu Ta'ala A'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.